Analyse F1, l'actualité comme vous ne l'avez jamais écouté. Bonjour à tous, bienvenue dans Analyse F1. Ça faisait très longtemps et je suis très très content de vous retrouver pour un nouveau podcast, donc consacré au sport mécanique et plus particulièrement à la Formule 1. Donc je suis navré, hein, ça faisait longtemps, j'avais dit qu'on passait sur un format mensuel. Là on va plutôt être sur un format quasi mensuel, mais pas vraiment complètement mensuel, parce que là on est déjà mi-janvier. Normalement le podcast aurait dû sortir fin décembre, début janvier, seulement voilà. J'ai eu notamment beaucoup de soucis sur mon PC, ce qui m'a empêché de travailler le podcast sereinement, de pouvoir l'enregistrer tout sereinement. Donc il fallait que je règle la majorité de ceci pour ensuite pouvoir faire le podcast comme il faut, et en l'ayant bien préparé, en pouvant l'enregistrer de manière sereine, sans avoir peur que le moindre problème survienne, que ce soit pendant la phase de préparation, d'enregistrement ou de montage, voire de mise en ligne. Donc là, c'est bon, on y est. Mais après, je vous garantis pas que ça suivra un rythme mensuel. Je vous le dis, ça sera quasi mensuel, parce que je compte conserver une certaine qualité dans l'émission de fond. Et voilà, dès que je sentirai que j'aurai assez de contenu pour faire une émission sympathique, on va dire, et complète, eh bien, je la ferai. Donc, dans l'idéal, ce sera mensuel. Donc, dans l'idéal, ce sera autour du 15-20 février que je ferai la prochaine émission. Mais rien n'est sûr, on verra, on verra. Je vais peut-être attendre que les monoplaces soient dévoilées, comme elles seront dévoilées entre le 20 et le 25 février environ. Je vais peut-être attendre ça. Ça dépend les news qui viendront. Il y en a déjà eu pas mal. Donc voilà, alors, vous dites, qu'est-ce qui nous parle, un nouveau format? C'est plus les chroniques, ce qu'il ne fallait pas manquer. Non, ce n'est plus ça. Alors, je vais vous expliquer, hein, si vous n'aviez pas suivi. Je vais résumer un peu le nouveau format d'analyse F1. Donc, il y aura une partie news, hein, dès cette émission, là, dès ce podcast, une partie news au début. Ensuite, il y aura une partie thématique longue. Donc, vous l'avez compris, c'est ce qui est marqué en titre de ce podcast. Donc, Liberty Media entre évolution et continuité. Et ensuite, à la fin, dernière partie du podcast, c'est une partie plus libre. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un livre. Mais une autre fois, je pourrais faire une interview, je pourrais parler de ce qui se passe dans les catégories inférieures, comme le GP2, les catégories d'accession à la F1, etc. Je pourrais parler de quoi d'autre, faire une petite rubrique humoristique. Je me laisse de la liberté pour cette dernière partie. Comme ça, ça me permet également de pouvoir compléter l'émission de manière plus libre. Et qu'il y ait du contenu assez différent, assez fourni, de vous proposer également plus de, comment dire, du contenu plus frais, quoi, que ce soit pas totalement cadré, et que du coup ça m'empêche d'aller sur d'autres terrains qui sont tout aussi intéressants. Donc on commence tout de suite par une partie news, les actualités. Donc c'est une partie actualité qui débute à partir de la fin de saison, hein, de la F1. Donc en novembre, et qui va jusqu'à, on va dire, aujourd'hui environ. Bon, tout d'abord, pour parler de manière plus légère, il y a eu Noël. Noël qui dit Noël dit cadeau, et qui dit cadeau dit peut-être cadeau F1. Alors de mon côté, j'ai offert à ma mère un petit bout de ponton de la Mercedes de 2013 d'Hamilton, avec la signature d'Hamilton sur le boîtier en acrylique, dans lequel est intégré le bout de ponton. Donc c'est assez design, c'est assez stylé, c'est un bout de F1 qui a couru un grand prix, hein, avec un certificat d'authenticité, donc que j'ai pris sur le site Memento Exclusives, qui propose des produits en rapport avec le sport, des produits assez on va dire, il y en a certains c'est vraiment luxueux, il y en a d'autres c'est abordable mais ça reste assez cher, on va dire. Mais le prix est justifié par ce qu'il y a dedans, quoi, par les composants et tout. Quand même, un bout de F1, bon, on comprend que ça puisse coûter un certain prix. Bon, voilà, j'ai offert ça à ma mère parce qu'elle est fan de d'Hamilton. Et vous, de votre côté, est-ce que vous avez reçu ou offert des cadeaux en rapport avec la F1? Alors, ça peut être à Noël ou à une autre occasion, hein, par exemple, hein, si par exemple à Noël, il n'y en a pas eu, mais une autre occasion, vous voulez parler, hein, d'un cadeau que vous avez fait. N'hésitez pas et venez en parler sur le Twitter d'Analyse F1, @F1Analyse, et sur la page Facebook d'Analyse F1 également, que vous trouverez dans la barre de recherche, vous tapez Analyse F1, vous trouverez rapidement, ou également sur PodCloud et sur le mini-site de l'émission analysef1.lepodcast.fr. Et oui, maintenant c'est avec une adresse avec le podcast, donc c'est bien plus simple à retenir, analysef1.lepodcast.fr. Et merci d'ailleurs aux hommes de l'ombre qui sont derrière Podchose et Podcloud pour avoir mis en place ça, entre autres et d'autres choses. C'est plutôt sympathique. Donc, rendez-vous, hein, sur les réseaux sociaux ou Podcloud, hein, pour en discuter. Ensuite, là, on va rentrer vraiment dans un sujet assez sérieux et qui m'a décontenancé, et je pense que ça a décontenancé pas mal de monde. Bon, on savait, on se disait, bon, Massa, Button, la retraite, tout ça. Mais on s'attendait pas à Rosberg. Rosberg, hein, quelques jours seulement après son titre de champion du monde, nous annonce qu'il prend sa retraite. Alors, c'était vraiment un coup de tonnerre, une nouvelle inattendue. De mon côté, moi, tout d'abord, le premier sentiment que j'ai eu, c'était un goût amer, une certaine déception, parce que je voulais voir comment il allait gérer, justement, le fait d'être titré, comment il allait gérer son nouveau statut. Eh bien, il a choisi de ne pas le gérer, tout simplement. Mais voilà, après la déception, j'ai réfléchi et je me suis dit, ouais, sa décision est compréhensive, je la comprends et je la respecte. Pourquoi? Parce que c'est à la lumière de tes explications, en fait. Et à la lumière de ce qui s'est passé ces dernières années, c'est des années de grosses rivalités avec Hamilton, des années de lutte pour le titre dans une écurie qui était mise bien en lumière par tous les médias. Donc c'est 3 années, voire plus, voire 4 si on compte 2013, mais on va dire 3, les 3 années pour le titre, c'est 3 années qui en valaient le double, quoi, en termes d'intensité, d'investissement, de pression, de rivalité, etc., etc. Et ça, il faut rajouter à ça, c'est tous les sacrifices que Rosberg a fait cette saison pour arriver à ce niveau-là et pour arriver à enfin glaner un titre de champion du monde. C'est des sacrifices au niveau personnel et professionnel, les deux étant vraiment intimement liés. Et d'ailleurs, Rosberg l'a expliqué, c'est-à-dire que c'est sur son plan personnel. En fait, il a demandé à sa femme de s'occuper de son enfant, de leur enfant en bas âge, qui a maintenant 1 an et demi, donc qui était vraiment en bas âge au début de la saison, par exemple. Et parce que Rosberg, quand il rentrait chez lui, donc à Monaco, il voulait pouvoir bénéficier d'une relaxation totale, ne pas avoir le stress de s'occuper de l'enfant et tout. Il voulait vraiment avoir des moments, voilà, où il puisse vraiment évacuer, toute la pression qu'il y a dans son cerveau, tout ce qu'il y a, évacuer, se remettre, comment dire, réinitialiser l'ordinateur, qui c'est un peu ça, c'est un peu se réinitialiser pour qu'il puisse repartir de l'avant au prochain Grand Prix. Et ça va de pair avec, et c'est cohérent avec ce qu'il a dit tout au long de la saison, c'est qu'il prend les courses les unes après les autres. Il prend chaque course comme un événement unique où il est à 100% à chaque événement. Et pour être à 100% à chaque événement, justement, il fait ça. Entre les Grands Prix, il rentre chez lui et voilà, il évacue tout. Et il se réinitialise en interne, en intérieur de lui. Il reset, quoi. Il appuie sur le bouton reset. Et voilà, c'est un nouveau Rosberg tout frais qui arrive. Et à chaque fois, c'est ça. Et il est arrivé à le faire quasiment tout au long de la saison. Et ça, c'est assez, assez exceptionnel. Et bravo, franchement, d'avoir réussi à faire ça. Parce que ça lui a permis de gagner le championnat, tout simplement. S'il n'avait pas fait ça, je pense que ça, on aurait eu un bis repetita de la saison 2015. Donc, bravo à Rosberg qui a su hisser son niveau de jeu comment dire, en prenant voilà les bonnes mesures, quoi. C'est-à-dire que le mec, il s'est mis à 110% dans son sport et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Donc voilà, et Rosberg, il est parti au sommet, c'était aussi quelque chose qu'il voulait faire, partir au sommet. C'était son rêve d'enfance, d'atteindre un titre de champion du monde. Et maintenant, ben, il veut passer davantage de temps avec sa famille, parce que là, ces années ont été harassantes pour lui, on peut le comprendre. Et pourtant, il avait un contrat en or avec Mercedes, qui avait été renégocié à la hausse. Donc voilà, c'est vraiment... C'est aussi louable de ce côté-là, on dit souvent les pilotes de F1, voilà, c'est des enfants gâtés, ils ont plein d'argent et tout, ils s'en foutent un peu de leur sport, c'est pas du tout ça, là en F1 on n'est pas du tout dans ce cas-là, pour 95% des pilotes, c'est pas ça du tout. Et là c'est la preuve avec Rosberg, il prend sa retraite alors qu'il aurait pu rester une saison de plus, même en se donnant pas 100%, mais c'est pas ça, si un pilote il court une saison, c'est pour courir à fond, quoi, tout simplement. Donc voilà. C'est un point que je souhaitais mettre en avant. Il y a des conséquences évidemment à cette retraite pour Mercedes tout d'abord. On y pense directement, on se dit ah ouais, mais là Rosberg, même Mercedes s'y attendait pas, elle ne le savait pas. Donc c'est assez embêtant pour eux, c'est inattendu, ils ont dû choisir un nouveau pilote qu'ils ont, on va dire, officialisé seulement il y a quelques jours, donc mi-janvier. Donc il a fallu du temps, beaucoup de négociations. Mais voilà, du côté de Mercedes, ils se sont montrés très compréhensifs envers Rosberg. D'ailleurs, ils ont nommé Rosberg ambassadeur de la marque. Donc voilà, c'est entre les deux parties, il n'y a pas eu de souci. C'est fait entre adultes intelligents. Et donc, il est remplacé par Bottas. J'y reviendrai peut-être. Ouais, j'y reviendrai un peu plus tard dans le podcast. Et enfin, oui, enfin, concernant la retraite de Rosberg, j'ai beaucoup apprécié, c'est l'esprit sportif et le respect mutuel entre Hamilton et Rosberg, suite à l'annonce de Rosberg, malgré la rivalité qu'il y a eu, malgré les vives tensions, le contexte ô combien difficile d'être sous les feux des projecteurs comme ça, et d'être opposés l'un à l'autre. Alors les deux s'accordent vraiment à dire qu'ils ne peuvent pas être amis, qu'ils ne pouvaient pas être amis dans ce contexte, mais qu'ils se respectent vis-à-vis de leur passé ensemble. Ils ont été très proches par le passé dans leur jeunesse. Ils se sont affrontés à de nombreuses reprises. Ils ont un respect mutuel qui est à la fois sportif et humain envers eux. Donc c'est très bien. Donc bravo et merci à Rosberg pour son titre et pour ses exploits. Pour sa rivalité avec Hamilton pendant 3 ans, qui restera dans l'histoire, qui est d'ores et déjà inscrite dans l'histoire de la Formule 1. Dans quelques années, on s'en souviendra comme une bonne rivalité entre Rosberg et Hamilton, qui a une histoire très très particulière. C'est pas une rivalité anodine. C'est vraiment quelque chose qui s'est construit avec le temps, bien avant la F1. En F1 également, il y a une histoire sur cette rivalité. Il y a eu des luttes en piste, des luttes hors piste. Bon, il y a eu une saison 2015, bon, avec pas trop de suspense, mais en 2014, il y a vraiment un début de quelque chose avec vraiment ouais, Bahreïn en piste, en hors-piste, on peut citer Monaco, Belgique, enfin, ou aussi en piste, évidemment. En 2016, en Autriche, en piste, notamment Abu Dhabi, Brésil s'était tendu. Les derniers Grands Prix étaient globalement tendus, d'ailleurs. Donc voilà, il y a une vraie histoire à cette rivalité, et je pense que l'histoire, s'en souviendra. Donc voilà, du coup, le départ de Rosberg, eh bien, il y a eu un effet domino. Bottas arrive chez Mercedes, et oui, Mercedes a fait le choix de Valtteri Bottas, et Massa est de retour chez Williams. Donc Massa qui avait donc annoncé sa retraite est de retour chez Williams, c'est assez particulier. Donc Bottas, c'est un bon choix selon moi. Il fait partie de ces quelques pilotes très rapides qui méritaient un baquet dans une écurie de pointe. Donc parmi ces pilotes, je note Pérez, Grosjean, j'aurais pu nommer Hülkenberg aussi à des moments, qui d'autres est dans une écurie un peu faible et rapide. Ouais, il y en a sûrement d'autres auxquels je ne pense pas tout de suite, évidemment. Mais il en fait partie, très rapide, toutes ces années chez Williams. Il n'y en a pas une de mauvaise, hein. Je vous invite à écouter le ce qu'il ne fallait pas manquer à propos de Valtteri Bottas. Pour l'instant, c'est un sans faute pour le pilote finlandais. Il n'y a rien à lui reprocher en Formule 1, au contraire. Il a montré une grosse pointe de vitesse, des très bons résultats. Il est relativement irréprochable. Il y a eu quelques écarts à des moments bien précis, mais bon, personne n'est parfait. Donc voilà, c'est un bon choix et je pense qu'il peut donner du fil à retordre à Mercedes. À lui maintenant de faire le boulot, c'est-à-dire de s'intégrer rapidement à cette nouvelle écurie, à ne pas se laisser dominer par cet ogre à la fois médiatique et à la fois en piste qui est Hamilton, et à voilà, et à faire son pilotage tout simplement. Ensuite Massa de retour chez Williams. Alors là, ça n'a pas été sans négociation. Hein. Déjà, pour que Bottas aille chez Mercedes, Williams a été très ferme. Hein. Ils ont dit à Mercedes, ok, on vous laisse Bottas, mais nous, on veut un pilote d'expérience de retour, on veut que Massa soit de retour. Donc, on vous laisse pas Bottas tant qu'il n'y a pas ça. Et du coup, Mercedes a aidé Williams, et donc, les a aidés en payant une partie du salaire de Felipe Massa. Alors, je me demande également si il n'y a pas également une aide au niveau du moteur. La fourniture moteur de Mercedes envers Williams, mais en tout cas, au niveau du salaire de Massa, il est en partie payé par l'écurie Mercedes. Donc voilà, ça a aidé les choses. Tout le monde est content. Bonne négociation des deux côtés. Et du coup, Massa de retour. Massa aussi cohérent. Il est très cohérent également. Parce que on pourrait dire, ouais, il y a eu on va dire, des larmes qui ont été versées finalement. C'est un peu ridicule qu'ils reviennent. Mais en fait, dans son discours de retour, il dit que ben Williams, il se sent désiré, quoi. C'est ce qu'il voulait. De toute façon, il comptait pas laisser les sports automobiles. Il allait courir dans une autre catégorie en 2017, vraisemblablement, possiblement en tout cas la Formule E. Mais il n'allait pas abandonner les sports automobiles, donc ça c'est un point. Donc son amour de la course n'était pas éteint. Et en deux, il avait toujours dit, il l'avait déjà dit précédemment et je l'avais relayé dans l'analyse F1, qu'il voulait se sentir désiré dans dans une écurie de F1, se sentir important et ne pas sentir un pilote comme les autres, quoi. Sentir que son expérience peut être une plus-value. Et Williams lui fournit ça. Williams, c'est une écurie qui lui a pas mal donné, qu'il apprécie beaucoup. Donc en plus, il a ce sentiment où il se sent désiré. Il a besoin d'être câliné, hein. Felipe Massa, c'est un pilote assez émotionnel. Et là, il se sent câliné, donc forcément, il revient. C'est plutôt logique. Plutôt logique. En plus, il y a cette perspective des F1 de 2017. Forcément, il y a une curiosité, je pense, à vouloir les essayer. Donc voilà, Williams est de Bansa est de retour. Et enfin, Wehrlein a été placé chez Sauber, n'étant pas sûr que Manor puisse être sur la grille cette saison. Donc c'est pas mal que Wehrlein reste en F1 cette saison. Ça aurait été très dommage, hein, et très triste qu'il ne le soit pas, étant donné ses performances en F1 en 2016. Et enfin, dernière grosse news, c'est le retour du Grand Prix de France au Castellet en 2018 sur le circuit Paul Ricard. Alors ça, c'était vraiment inattendu. Comme la retraite de Rosberg, c'était inattendu. Et ça n'a pas été sans l'intervention de collectivités locales, à l'image de Monza. Monza où le Grand Prix a été sauvé grâce à l'intervention des collectivités locales là-bas. Là, c'est pareil en France. C'est ça qui a fortement aidé et contribué au retour de ce Grand Prix de France. Et il faut rajouter également la déchéance du Grand Prix d'Allemagne, qui ne fera pas son retour au calendrier en 2017 et vraisemblablement pas en 2018, puisque le Grand Prix de France arrive en 2018. Donc ça va être dur pour l'Allemagne de faire son retour, malheureusement pour eux, parce que quand même c'est assez triste de voir qu'il n'y a pas de Grand Prix d'Allemagne. Mais du coup la France a su s'immiscer, a su saisir l'opportunité, ce qu'elle n'avait pas su faire en 2011-2012, là où il y avait des fortes opportunités, de fortes discussions avec Ecclestone. Eh bien, ça avait été un gros raté. Eh bien, là, c'est une réussite. Du coup, ben voilà, en 2018, j'essaierai d'être présent, hein, au Castellet, évidemment, pour ce Grand Prix de France. Mais j'espère que vous aussi, hein, vous irez. Donc c'est dans le sud de la France, hein. On verra, on verra. On verra ce que ça va donner. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour la France. Donc je me devais d'en parler. Je pense que ça peut relancer un certain engouement pour le sport automobile également, qui est nécessaire en France parce que ça se ternissait grandement. Mais voilà. Et ensuite, j'espère vraiment que ce sera officialisé enfin. Tant qu'il n'y a pas le calendrier officiel de la saison 2018, moi je mets un petit bémol, mais pour l'instant, c'est en bonne voie pour qu'on ait le Grand Prix de France en 2018. C'est à 95% fait, quoi. Il manque vraiment que la publication du calendrier officiel pour la saison 2018. Et voilà, c'était tout pour cette partie news assez dense, hein. Et encore, j'ai effleuré que, il y a certains trucs que je n'ai fait qu'effleurer. Voilà, c'est déjà assez long. Maintenant, ben, on va se faire une petite pause musicale hein, pour essayer de digérer tout ça. Retour des pauses musicales, on va s'écouter du White Blues. Donc ça s'écrit Y.blues. C'est un groupe grenoblois que vous connaissez peut-être hein, si vous avez écouté Analyse FM depuis longtemps. Un groupe grenoblois que j'aime bien, qui se définit blues metal, non jack blues metal pour être exact. Et c'est très bien, c'est très bien. Et d'ailleurs leur deuxième album là, il y avait une campagne de financement participatif que j'avais relayée là dans mon podcast, dans Analyse F1, qui a fonctionné. Du coup, le deuxième album est en préparation avec de nombreux musiciens invités faisant partie de la scène rock metal européenne. Donc indépendante, je précise, hein, ne vous attendez pas à des gros noms hyper mainstream connus, hein, mais c'est bien qu'il y ait des invités déjà, que d'autres groupes viennent soutenir White Blues, c'est-à-dire qu'il y a une certaine reconnaissance de ce groupe grenoblois, qui fait un très bon travail au niveau de ses titres, de ses mixages, de ses clips. Il y a de la qualité, donc je vous invite à le découvrir sur le site whiteblues.com, yblues.com du coup. Et là, on va s'écouter donc un titre de leur premier album. On va s'écouter d'ailleurs le titre éponyme, hein, White Blues. On se retrouve tout à l'heure, bonne écoute. Hey, on est de retour dans Analyse et Fin, et on va parler maintenant du gros sujet hein, de ce podcast, de Liberty Media. Alors, pour rappel, Liberty Media, c'est l'entité qui a racheté la F1. D'ailleurs, le rachat a été officialisé il y a quelques jours, donc c'était aussi important évidemment que faire ce podcast maintenant, parce qu'il n'est pas du coup désuet, j'en suis sûr qu'il n'est pas désuet, vu que le rachat a été officialisé. Donc maintenant c'est fait, il n'y a plus d'embrouille. Donc il faut en parler parce qu'on dit beaucoup Liberty Media, ils rachètent la F1, voilà, c'est les Américains. Mais qui sont-ils? Que veulent-ils faire? À quoi peut-on s'attendre pour l'avenir? Ça, c'est autant de questions auxquelles je vais essayer de répondre et vous apporter le plus de pistes de réflexion possible. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous en pensez de ce rachat sur les réseaux sociaux. C'est un sujet important. Important, important. Parce qu'on va beaucoup en parler et malheureusement on rappelle pas trop les faits et je suis là pour le faire. Et oui, vous avez cette chance ou pas, j'espère bien le faire. Donc voilà, tout d'abord, qui sont-ils? Qu'est-ce que Liberty Media? C'est une société qui a beaucoup investi dans le domaine de la télévision, notamment dans les années 2000, avec par exemple DirecTV, c'est un exemple connu. Outre-Atlantique, en tout cas, c'est très connu, DirecTV. Liberty Media, ils ont investi là-dedans. Et ils ont beaucoup investi dans le multimédia de manière générale. Donc tout ce qui est radio, télé, etc. Voilà. Tout ce qui est également dans promotion de concerts, promotion d'événements multimédia. Bref. Dans le sport également. Évidemment. On parle de F1, donc je me suis renseigné un peu s'ils avaient investi dans le domaine sportif. Oui, ils l'ont fait. Investi dans l'équipe de baseball des Atlanta Braves. Je connais pas trop, je suis pas trop le baseball aux États-Unis, peut-être que vous y connaissez mieux. En tout cas, Liberty Media a eu des parts dans cette équipe, voire même a racheté l'équipe, hein, je sais plus, mais ils avaient des parts, ça c'est sûr. Alors je voulais voir du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que ça peut nous donner un indice sur la façon dont ils vont gérer la F1? Bon ben, mauvaise nouvelle, non. Non, pourquoi? Parce qu'en fait, c'était un investissement assez passif. C'était un mode de possession du club, de propriété du club assez passif, où il n'agissait pas sur les actes quotidiens du club, quoi. C'était vraiment un investissement, voilà. Un investissement pour mettre de l'argent, parce qu'ils croyaient au projet. Mais c'est tout. Et après, ils ont laissé le sportif, je pense, au sportif. Bon, pourquoi pas. Du coup, ça nous donne pas trop d'indices pour l'instant. En ce moment, je vais regarder du coup en ce moment. Là, j'ai fait une brève, enfin, très caricaturée, enfin très très brève rétrospective de Liberty Media, évidemment. J'ai cité que des exemples, mais ils ont investi dans plein de trucs, hein, quand je l'ai dit, quand je répète, hein, beaucoup dans la télévision, dans le multimédia. Donc ils ont pas mal d'expérience depuis, je crois, les années 90, globalement, hein, les années 90. Donc ça fait une vingtaine d'années, quoi, qu'ils sont dans le domaine. En ce moment, Liberty Media possède 34% de Live Nation, qui est spécialisé dans l'événementiel, qui est très connu hein, pour notamment la promotion de concerts. Live Nation, très connu pour ça, donc Liberty Media en possède 34%. Ils ont également des parts dans des sociétés spécialisées dans l'investissement. Donc Liberty Associated Partners, oh là cet accent, enfin Liberty Associated Partners, par exemple, ouais c'est légèrement mieux l'accent, mais c'est pas ouf, hein. C'est pas fou. Également IdeaSnet, concernant l'acquisition de parts dans des sociétés multimédia. Donc voilà, ils ont l'air de s'y connaître quand même. C'est pas les premiers venus en termes de comment dire d'investissement tout d'abord. Donc s'ils ont choisi la F1, c'est sûrement pas par hasard. C'est qu'ils ont vu du bien, donc c'est une bonne nouvelle. Et ensuite, ils ont étudié quand même tout ce qui est multimédia, télé, radio. Donc, c'est pas mal pour ce qui est toutes les problématiques d'audience, de diffusion, du sport, etc. Bon, ça donne des petits indices là-dessus. Bon, pour l'instant, on sait ça. Bon, ensuite, il faut s'attarder sur l'homme qu'ils ont mis à la tête de tout ça. Pour être le président de la F1, eh bien c'est Chase Carey qui a été nommé pour être le président donc de la Formule 1. Qui est-il? Qui est-il cet homme? Cet homme avec la moustache frétillante? Eh bien il a été d'ailleurs président directeur général de DirecTV. Ah, DirecTV, ça vous dit peut-être quelque chose vu qu'il y a 2 minutes, je vous en ai parlé, et oui. C'est une société, donc c'est une chaîne de télé. Enfin, je sais plus exactement si c'est une chaîne de télé ou si c'est plutôt une sorte de fournisseur qui propose des bouquets télé. Mais enfin bref, peu importe. Il a aussi travaillé à la Fox, qui est une chaîne de télé. Il a pas mal bossé sur les droits de retransmission de compétitions sportives sur la Fox d'ailleurs. Donc la Fox qui est quand même une grosse chaîne aux États-Unis, hein, c'est pas comment dire, c'est pas Sport 365 TV quoi, c'est plus du calibre là-bas de, je sais pas, de beIN Sport ou de, je sais pas, d'Eurosport, enfin, c'est même pas comparable. La Fox c'est international, c'est une grosse portée. Et enfin, c'est une sorte de bras droit de Rupert Murdoch, qui est un homme d'affaires assez célèbre apparemment dans le milieu. Donc ça parle beaucoup. C'est assez parlant. Et notamment ce qui est assez parlant, c'est voilà, l'expérience à la concernant la télévision et concernant les droits de retransmission sportive et la négociation de tout ça. Donc ça, c'est pas mal pour succéder à Bernie Ecclestone, quoi. Ça rassure, ça peut rassurer. Voilà. Donc quand on a vu tout ça un peu, Liberty Media, qui ils sont, Cescari, qui est cet homme, ben on peut se rendre compte que finalement il y a une cohérence dans la démarche de Liberty Media. Ils ont un savoir-faire en investissement, en marketing multimédia, et en plus on peut coupler tout ça à l'expérience de la télévision dont jouit Cescari, qui est donc le président de la F1 à l'heure actuelle. Donc là on se dit c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Et en plus leur déclaration vont dans le sens de ce qu'ils savent faire, donc là c'est encore mieux, là ils nous rassurent encore plus. Donc leur déclaration c'est tout simple, ils veulent développer la F1 dans les territoires acquis et surtout dans les territoires non acquis. Donc ça c'est plus dans la continuité de ce qui se faisait déjà, là on est plus dans la continuité hein, de ce que faisait CVC par l'intermédiaire d'Ecclestone. Donc bon ça va, à mon avis il n'y aura pas de gros changements là-dessus. Et ils veulent se développer enfin sur les supports numériques. Ça, par contre, on est plus dans l'évolution. Continuité et évolution d'ailleurs, parce que depuis 1 an et demi, 2 ans, on voit fleurir pas mal la F1 sur les réseaux sociaux et sur Internet, sur YouTube, etc., etc., via des applications également. Donc, il y a eu un début, mais c'est pas suffisant. C'est vrai que ça manque de contenu sur notamment le site de la Formule 1, qui certes a fait peau neuve. C'est pas trop mal, même si au niveau de l'ergonomie, il y a des trucs à redire, je pense. Mais il y aurait encore plus à faire. Par exemple, sur le contenu payant, le F1 Access, là, à mon avis, il y a beaucoup plus à faire là-dessus. Et pour satisfaire les fans et pour surtout que, ben, ça rapporte un peu plus à la F1 et que ce soit plus intéressant pour tout le monde. Donc de ce côté-là, on risque de voir une grosse évolution. Peut-être également au niveau de la souplesse, qu'ont les pilotes pour filmer des trucs dans le cadre de leur profession. Si on savait avec la FOM et tout, là, c'est hyper strict. Les écuries n'ont même pas le droit de se servir de, comment dire, d'extrait de Grand Prix pour faire leurs vidéos. Ils sont obligés de se servir des films promotionnels. Vous savez, là, quand ils font les shakedowns à Silverstone, là, toutes les écuries. Eh bien, les films, là, ils s'en servent ou même à Barcelone. Ben, ils s'en servent à l'infini dans leurs vidéos pour les montages de vidéos, parce qu'ils peuvent faire que ça, en fait. Ils n'ont pas le droit de se servir d'extrait de course ou quoi. Donc voilà, du coup, ça limite, on va dire, le contenu, la créativité. Donc c'est dommage, peut-être qu'il y aura une évolution là-dessus, on ne sait pas, ils n'ont rien dit sur ce point. Ensuite, sur le plan marketing, on risque de voir une évolution pour ramener des investisseurs, des sponsors, etc. Liberty Media a noté que il y a beaucoup de manques à ce niveau-là, notamment au niveau des hommes qui travaillent sur les sponsors en F1. Ils ont dit il n'y en a pas assez, quoi, et il faut changer ça. Parce que c'est vrai qu'en plus, on a une sorte de crise des sponsors en F1, une petite crise des sponsors. Donc il faut en ramener encore plus, il faut ramener aussi des investisseurs là-dedans, que ça profite à la F1, aux écuries, à tout le monde. Donc là, on attend Liberty Media vraiment au tournant, parce que c'est leur domaine de prédilection. Et il faudra vraiment pas se tromper là-dessus parce que la F1, c'est un sport qui draine beaucoup d'argent. Et qui dit sport qui draine beaucoup d'argent, dit que ça peut vite être la catastrophe si s'il y a un problème au niveau du sponsorship ou autre. Donc voilà, on les attend là-dessus, Liberty Media, mais pour l'instant, quand on se renseigne un peu là-dessus, à la lumière de ce que je vous ai dit, on pourrait se dire, ouais, c'est leur domaine, donc là, normalement, ça va être cool. On va avoir un progrès en F1 de ce côté-là, ce qui amènera des progrès en cascade à d'autres niveaux. Et en parlant d'argent, et on peut parler des droits de diffusion également, donc ça, je ramène à Chase Carey, qui s'y connaît en télévision, grosse expérience, homme de confiance de Liberty Media eux-mêmes qui sont experts en investissement dans ce genre de, dans le multimédia, connaissent la télé également. Donc on est en droit de aussi de les attendre sur la question des droits de diffusion. Donc on ne sait pas si ça va être sur la même ligne qu'avant, c'est-à-dire avec la F1 qui passe sur uniquement les chaînes payantes, notamment dans les pays et contrées historiques. Mais ce qui est sûr, c'est que Liberty Media, ils veulent développer l'audience de leur sport et ils ont plusieurs pistes à explorer pour y arriver. Donc bon, s'ils estiment que finalement mettre le sport sur des chaînes payantes, c'est pas l'idéal, ils essaieront de changer ça et de privilégier peut-être d'autres chaînes de télé qui postuleraient. Mais bon, c'est pas sûr, hein, c'est pas sûr. En tout cas, ils veulent développer l'audience du sport. On va voir comment ils vont le faire. Ça peut passer également par le numérique, je le pense. À voir à l'avenir. Une nouvelle interrogation également, c'est concernant les contrats secrets qui lient Bernie Ecclestone et les promoteurs des Grands Prix. Donc on sait que Bernie Ecclestone est très très fort en négociation pour cela. C'est son domaine de prédilection, c'est ce domaine sur lequel Ecclestone a été vraiment, je trouve, quasi irréprochable depuis des dizaines d'années. Donc voilà. Et on parle de contrat secret avec un contenu voilà que seul Ecclestone connaît. Et lui, c'est vrai, en termes de négociation, il est assez fort. Et donc est-ce que Liberty Media saura faire? Et surtout, Ecclestone avait des liens privilégiés avec les promoteurs des Grands Prix. Des liens professionnels. Des liens, voilà. Des liens professionnels. Donc est-ce que Liberty Media saura faire? Est-ce que Ecclestone saura, comment dire, passer le relais à Liberty Media, s'entretenir à, est-ce que les deux parties arriveront à s'entendre pour qu'il y ait une transition correcte? Je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde, parce que Ecclestone, lui, son intérêt, c'est de faire vivre le sport. Même si ses déclarations, bon, il faut mieux pas lire quand il parle du sport, c'est souvent mauvais, et ça dessert plus le sport qu'autre chose. Mais en tout cas, quand il bosse, sans parler, quand il bosse avec les promoteurs et tout pour négocier les droits, eh bien, ça se passe plutôt bien. Il fait son boulot avec Ecclestone, donc là, faudra que Liberty Media prenne conseil auprès d'Ecclestone, ça a déjà dû être fait pour assurer une transition entre tout le monde et que le sport puisse continuer à pérenniser dans toutes les contrées dans le monde. Donc du coup, voilà, presque en conclusion, ce qui est rassurant, c'est que c'est pas juste, c'est que Liberty Media n'est pas juste un groupuscule qui ramène uniquement de l'argent sur la table. On aurait pu croire, par exemple, c'est pas juste, je sais pas, un groupuscule de Moyen-Orient hyper riche, je dis Moyen-Orient, mais ça pourrait être de n'importe où, de Chine, de Russie, d'où vous voulez, qui ramènent de l'argent sur la table parce qu'ils ont vu une opportunité de faire de l'argent sans trop rien faire et sans trop connaître le domaine. Là, c'est pas le cas avec Liberty Media. Là, quand on se renseigne, non. Il y a une véritable expertise derrière, au niveau de la télévision, au niveau de l'investissement. Normalement, ils n'ont pas investi au pif. C'est qu'il y a vraiment quelque chose à faire autour de la F1, c'est bien. C'est bien pour le sport, ils peuvent être rassurés là-dessus. Au niveau de la télévision également, à travers Chase Carey, qui est quand même un homme assez connu dans le milieu, et qui a donc travaillé avec la Fox, et donc les retransmissions sportives de la Fox, les négociations, donc c'est pas mal. Il y a un choix d'homme intéressant, du coup, via lui, via d'autres sûrement, et il y a un projet, parce que dans leurs premières interviews, ils ont annoncé, voilà, la couleur Enfin, ils ont annoncé un projet au sens large. Après, ils vont, au fur et à mesure des mois, là, et à mon avis, ils ont déjà dû voir, dû fixer des projets un peu plus précis. Mais déjà, ce que je vous ai raconté, c'est les projets généraux qu'ils ont énumérés, on va dire, au début, et les différents axes d'amélioration. Et bon, du coup, ils vont resserrer les taux, et puis on va se retrouver avec des vraies mesures qui vont être prises dans les mois à venir. Alors certes, après, c'est comme le dit Bernie Ecclestone lui-même, ils ne font pas gratuitement Liberty Media. Ce qu'ils veulent faire, c'est faire de l'argent. Oui, en effet, Liberty Media, ils veulent faire fructifier leur investissement. Mais pour cela, ils vont chercher à exploiter au mieux tous les outils qui n'ont justement pas été exploités au mieux. Voilà. Et donc, ça implique de faire évoluer le sport dans le bon sens. Donc, normalement, on peut avoir tendance à croire, et moi j'ai tendance à croire, que Liberty Media est au fait à croire en Liberty Media et que ça va être gagnant-gagnant, si leur travail est de qualité bien sûr. Mais voilà, pour l'instant, au vu de leur passé et tout, on peut croire en eux. Après, il y a certaines zones d'ombre, hein, comme je l'ai dit, voilà, il y a des axes généraux qui sont pris, mais on sait pas encore quelles mesures concrètes vont être prises. Donc, c'est en ça qu'il y a des zones d'ombre, donc il va falloir attendre pour voir si ça va être positif pour le sport, je l'espère en tout cas. En tout cas, bon, il faut pas trop en attendre de Liberty Media. Liberty Media, ils vont faire ce pourquoi ils sont experts. Donc, tout ce que j'ai dit. Donc n'attendez pas non plus, s'il n'y a pas de gros changements par exemple au niveau du règlement sportif, faudra pas taper sur Liberty Media. Ils n'ont rien à voir là-dedans, il faudra taper sur la FIA. Eux, ils ont tout à voir là-dedans et on peut leur taper dessus. Moi, je le fais allègrement dans l'analyse F1 depuis des années. Donc, voilà, ce n'est pas de leur fait le règlement. Après, c'est possible qu'ils fassent une analyse Liberty Media et qu'ils se rendent compte que la baisse d'audience... Que les ba certaines baisses d'audience ou certaines baisses de fréquentation sont dues à un règlement qui relève du n'importe quoi. S'ils lisent le sondage du GPDA, le sondage mondial, d'ailleurs, on se demande comment il a été interprété par les instances de la F1, mais bref. Mais s'ils se réfèrent à ce sondage, notamment, et à d'autres choses, ils pourront se rendre compte que, voilà, au niveau règlement sportif, il y a des choses à améliorer et que ce serait gagnant-gagnant que la FIA se bouge un peu et soit un peu plus efficace au niveau réglementation. Et voire réforme totalement leur manière de voir les choses au niveau sportif. Donc là, Liberty Media pourra évidemment s'entretenir avec la FIA là-dessus. Voilà, mais c'est pas leur... Après, ça sera au choix de la FIA, évidemment, de changer ou non de fusil d'épaule. Bon, on verra. En tout cas, ça, c'est une période très intéressante à suivre, l'année 2017, que ce soit au niveau sportif, au niveau extra-sportif. Je vous invite vraiment à suivre cette saison si vous n'avez pas suivi la saison 2016, et c'est bien dommage parce que c'était globalement quand même une belle saison, avec certaines très belles courses. Donc 2017, vraiment une année à suivre sur tous les points. Et du coup, avant de passer à la dernière partie du podcast, on va se réécouter une petite pause musicale, une petite musique de Wild Blues. On va s'écouter The Arrival et après on se retrouve pour la dernière partie du podcast, histoire de, voilà, de digérer tout ça, cet amas d'informations, et de repartir pour un sujet, on va dire, un peu plus léger. Ce sera une critique d'un bouquin. La première fois que je fais ça, tiens. Allez, bonne écoute et à tout de suite. We'll be right back. C'est parti pour la dernière partie de ce podcast. Et cette dernière partie, j'ai décidé de la consacrer à une critique d'un livre, un livre sur la Formule 1, qui s'intitule Formule 1, l'histoire complète de la F1. Un livre édité par L'Imprévu en France, traduit par Silero et Demota. Donc un livre fait à l'origine par Igloo Books, qui ne le propose même plus sur leur site internet. On va peut-être voir pourquoi lors de cette critique. Et qui est proposé au prix de 16,50€ sur le site sur des certains sites marchands bien connus. Donc ce livre propose de découvrir ou de redécouvrir la F1 de 1950 à 2012. Donc le livre a été fait en 2013. Donc là jusque là c'est normal. Toute l'histoire de la Formule 1, c'est assez ambitieux. Avec une première partie liée au circuit. Donc il y a tous les circuits actuels de la saison 2012 plus quelques anciens. Une deuxième partie assez courte consacrée aux constructeurs et enfin un résumé de chaque saison de F1. Donc le pari de ce livre, c'est de faire un condensé de toute l'histoire de la Formule 1 avec très peu de texte finalement. Donc ceux qui n'aiment pas la lecture, sont pas trop lecture normalement pour y trouver leur compte, et beaucoup de photos et des belles photos d'ailleurs. C'est le gros plus de ce livre. Je vais en parler tout de suite. Parce que vraiment, les photos sont magnifiques, la sélection est parfaite, est quasi parfaite. Peut-être un peu plus bâclée sur les on va dire la période la plus récente, post-année 2000. Mais on va dire que quand on ouvre un livre sur l'histoire de la Formule 1, ce qui est intéressant, c'est de découvrir ce qui s'est passé bien avant, parce que ce qui est le plus proche de nous, bon ben on y a vu il y a pas longtemps, il y a pas de souci. Mais de voir des très belles photos entre les années 50 et 90, c'est pas mal, et là vraiment. Donc ils ont utilisé des banques d'images sur internet entre autres, mais en tout cas la sélection et la reproduction de ces photos dans le bouquin, dans le livre, sont parfaites. C'est parfait, c'est très beau, c'est très bien choisi. Donc voilà, bravo pour la sélection, c'est le gros plus. Rien que pour les images, on serait tenté de conseiller le livre. Mais malheureusement, au fur et à mesure que j'ai lu le bouquin, j'ai été de plus en plus déçu. Et là on arrive déjà au point négatif. Et j'ai parlé d'un point positif et là on arrive déjà au point négatif. Enfin, dans les points négatifs, je vais y voir du positif, hein, vous en faites pas. Donc tout d'abord, je vais suivre le livre. Je vais parler des circuits, de la partie circuit. Alors pour certains circuits, il y a le tracé dessiné, d'autres non. Pourtant en prenant juste les circuits actuels. Donc on comprend pas. Et sans raison apparente. Donc pour moi c'est intéressant, tu sais, quand tu découvres la F1, même quand tu connais la F1, c'est d'avoir le circuit sous les yeux, le tracé sous les yeux. Là t'en as certains, il n'y en a pas. Donc je ne sais pas pourquoi. Et c'est assez triste. Ça fait un peu une sorte d'oubli ou de je sais pas, de négligence. D'autant plus qu'en plus, ils expliquent souvent le tracé. Enfin, parfois, ils expliquent le tracé quand ils font le descriptif du Grand Prix et l'historique du Grand Prix, du circuit. Et quand ils font le descriptif et qu'il n'y a pas, le tracé à l'image, c'est très dur de se l'imaginer. Très très dur. Ensuite, il y a des erreurs sur le descriptif de certains circuits. Et ça, c'est triste. C'est-à-dire qu'en plus, je crois que c'est le Grand Prix d'Hongrie. Ah ouais, le Grand Prix d'Hongrie. Donc, il y a le tracé, hein. Il y a le tracé et il y a le descriptif. Et là, à un moment, dans le livre, on nous parle d'une épingle. Alors, je sais pas si c'est une erreur de traduction ou une erreur du livre. Je pense que c'est une erreur du livre, parce qu'une erreur de traduction épingle, c'est hairpin. Donc, ça devait bien être hairpin. Dans le livre original, je n'ose pas croire l'inverse. Et à un moment, on nous parle d'une épingle, mais qui n'existe pas. Là, c'est l'enchaînement de virages rapides après la chicane. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas d'épingle du tout. Et là, on nous parle d'une épingle, alors qu'à la place d'un virage rapide, le truc n'a rien à voir. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas compris. Et certains descriptifs complètement faux. Donc, c'est assez dommage. Et concernant les circuits, il y en a un qui est à peine évoqué, qui pourtant était un des circuits d'actualité à l'époque, vu que c'est le circuit de du le Circuit of the Americas, donc le Grand Prix d'Austin, le Grand Prix des États-Unis à Austin en 2012, qui a fait son apparition cette année-là. Et donc le livre est de 2013, donc le Grand Prix a eu lieu en 2012, et pourtant il n'y a qu'un seul paragraphe consacré à ce circuit, mais vraiment qu'un seul. Il n'y a même pas une page, il y a un seul petit paragraphe. Donc là c'est vraiment de la grosse négligence. C'est dommage, c'est dommage. Concernant la partie relative aux constructeurs, le sujet est très largement survolé, surtout par rapport à des livres concurrents. Surtout par rapport à des livres concurrents. Très survolé, c'est une partie au final pas vraiment utile. Vraiment pas utile dans le livre, ils auraient pu s'en abstenir parce que y a plein de manques, et on comprend pas comment on est arrivé d'une certaine époque à une certaine époque, les évolutions, c'est assez fouillis. Non, c'était pas une partie utile au livre, je pense. Mais bon, après, ça permet de s'initier, on va dire, à l'histoire de la Formule 1, à ce niveau-là, au niveau des constructeurs. Donc, quand on s'initie, c'est plutôt pas mal, mais il y a d'autres livres où on peut s'initier sans pour autant que ce soit bourré de textes et qui sont mieux. Là, c'est vraiment survolé. Et encore une fois, le pari de faire peu de textes, beaucoup de photos, et de faire un condensé de toute la Formule 1, toute l'histoire, pour l'instant, c'est pas une réussite, c'est pas une réussite. Alors du coup, je me suis dit, bon, ben, je vais voir sur les saisons, parce que je me suis dit, là, c'est là que ça peut être le mieux. En effet, faire de 1950 à 2012, c'est-à-dire de faire un petit résumé de chaque saison en très peu de texte, c'est-à-dire qu'en deux pages, on a genre 4-5 saisons déjà, 4-5 saisons de résumé. Là, c'est le gros pari du livre. Si c'est réussi, là, je conseille le livre, évidemment, et j'aurais adoré. Mais malheureusement, c'était trop dur à faire. C'était trop dur à faire. C'était même peut-être impossible. Et ben du coup, cette partie relative aux différentes saisons de la F1 ne déroge pas à la règle. Il y a des erreurs, des imprécisions. On ne sait pas tout le temps qui a gagné le titre. Donc c'est assez dérangeant, parce que quand tu découvres la F1, tu veux voir qui a gagné le titre à chaque fois, quoi. C'est au moins avoir la mention du mec titré, du pilote titré à la fin, en deux mots, tu sais. Mais non, même pas, des fois, on ne sait pas. On ne sait pas, on a un bref résumé, mais qui est pas mal. En soi, les résumés peuvent être intéressants de certaines saisons, mais c'est inégal. Il y a certaines saisons, il y a un résumé plus fourni, d'autres saisons, non. D'autres saisons, on s'imagine très bien comment... Parce que le but, c'est ça. C'est que quand tu le lis, tu te dises « Ah ouais, je vois comment ça s'est passé. » Tu t'imagines dans ta tête comment ça s'est passé. Mais il y a d'autres saisons, tu t'imagines pas, quoi. C'est très compliqué. Très, très compliqué. Et puis, il y a des gros événements qui ont été zappés. Et en plus, il y a des grosses erreurs. Et ça, c'est le pire. En fait, ça m'a fait arrêter le livre et j'ai fini par les photos, hein, je vous l'avoue. Donc, par exemple, en 1966, ça dit que Surtees gagne son 3e titre mondial. Mot pour mot, hein, vraiment, ça dit ça, que Surtees gagne son 3e titre mondial, alors que à l'époque, il n'en avait gagné qu'un, déjà. Et surtout, qu'en 1966, c'est pas Surtees qui gagne le titre, c'est Brabham. Et Brabham, lui, en effet, c'est son 3e titre mondial. Donc là, c'est quand même une grosse coquille. Une grosse coquille, c'est-à-dire qu'en plus, que des fois, on sait pas qui a gagné le titre, il y a des erreurs sur les noms, sur ceux qui ont gagné le titre. Donc ça prête à confusion, et même, du coup... Quand tu veux découvrir la F1, si tu lis quelque chose qui est bourré d'erreurs, après les erreurs tu les auras en tête, et après tu vas te dire attends, mais c'était pas lui qui a gagné le titre à l'époque, ou il était, ou d'autres choses, là c'est en 66, vous allez me dire ah c'est en 66, hein, on s'en fout. Non, ben là j'ai un autre exemple un peu plus connu, c'est James Hunt. Donc James Hunt, un duel avec Niki Lauda, et bien dans le livre, il est mentionné qu'il a rejoint Mercedes en 1976. Mercedes, non, il n'a pas rejoint Mercedes en 1976, il a rejoint McLaren, donc là c'est une grosse erreur, là c'est vraiment une grosse erreur quand même, et il n'y avait pas du tout Mercedes à l'époque, en plus, sur la grille, donc voilà, donc là, t'imagines, tu t'offres ce livre à quelqu'un qui commence la F1, tu sais, qui veut un peu se mettre dedans, sans trop non plus être abreuvé d'informations. Mais là, il a des informations fausses. Donc après, il va balancer, il va croire que il y avait Mercedes en 1976 déjà, et il va se mélanger les pinceaux. Non. L'histoire doit être restituée fidèlement, Et là, elle ne l'est pas. C'est pas respectueux envers la F1 déjà, et c'est pas respectueux envers un vrai travail, un vrai travail de recherche. Mais même, enfin, là, je conseillerais même d'aller sur Wikipédia. C'est encore mieux, parce que sur Wikipédia, il n'y a pas ce genre d'erreur. Donc voilà, c'est dommage quand même de vendre ça. C'est triste quand même. Ouais, c'est dommage. Donc moi, pour l'instant, je vous conseille pas d'acheter ce livre. Et après, même concernant les images qui sont très belles, je le rappelle vraiment, c'est le gros plus du livre. Franchement, j'ai eu des étoiles dans les yeux en voyant les images. Ça, voir des images nettes des années 50, ça n'a pas de prix. Et en plus, les choix de photos au niveau des actions. Alors, ça peut être par exemple quand ils sont en piste, sur le vieux tracé de Monaco, où on voit aussi le vieux raidillon. On voit aussi quand ils sont au stand, on voit plein de trucs quand ils sont en préparation du Grand Prix. C'est très bien, c'est très bien. Le choix est très bien, mais après sur le texte, c'est nul. Mais même sur les légendes des photos, il y a des erreurs. À un moment, on voit un pilote, il est en sortie de virage très clairement hein, sur la photo, et la légende de la photo indique qu'il est en pleine ligne droite. Il est en pleine ligne droite à fond. Tu vois ça, tu te dis non, mais est-ce que vous regardez ce que vous faites avant de le faire? Est-ce que vous vous relisez? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'au niveau du travail, je sais pas, vous aviez un jour pour faire le bouquin, ou c'était quoi le défi en fait? Non, c'est pas possible qu'il y ait des erreurs comme ça. C'est pas beau. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. J'aurais aimé conseiller ce livre vraiment parce que sur le papier, le principe est excellent. Et excellent pour se mettre dans ce sport et même pour découvrir l'histoire de ce sport quand on connaît pas trop. Et moi, le premier, je suis pas non plus au fait de tout ce qui s'est passé dans les années 50, 60 et 70, notamment. Même les années 80. Donc, je m'attendais à, voilà, à apprendre. J'ai appris un peu, mais du coup, j'ai eu des doutes sur certains trucs. Parce qu'il y a eu tellement d'erreurs dans le bouquin qu'à un moment, tu doutes. Et à un moment, t'arrêtes. Parce que tu dis non, si je suis dans le doute sur des informations, ça le fait pas. Donc voilà, il y a beaucoup de très belles photos. Le principe, c'était ça, beaucoup de très belles photos, peu de texte, concis, et de proposer vraiment un format parfait pour les gens qui n'aiment pas trop la lecture, et qui veulent en avoir plein les yeux, et qui veulent voilà, se mettre dans la Formule 1 ou redécouvrir la Formule 1. Le pari aurait pu être remporté s'il n'y avait pas tant d'erreurs, d'approximation, d'oubli, de négligence, même d'une certaine fainéantise, je pense, chez les auteurs. N'ayons pas peur des mots, parce que ça se ressent vraiment à la lecture, cette fainéantise. Vraiment, vraiment. Vraiment, des fois, c'est un sous-Wikipédia, hein, j'ose le dire. Le livre est un sous-Wikipédia. Donc, ouais. Le livre mentionne, dans la quatrième de couverture, un livre indispensable à tous les passionnés de course automobile. Je réponds non. Next. Il y a bien mieux dans la concurrence, donc allez voir ailleurs. Je n'achetais pas ce livre, vraiment. Après avoir écouté ce podcast, si vous achetez ce livre, ben voilà, faudra pas vous plaindre des 16,50 € ou peut-être moins si vous le prenez d'occasion ou autre, qui seront gâchés. Je pense qu'il y a mieux à faire avec ces 15-20 € dans votre vie ou en termes de livres en rapport avec la Formule 1. Vous trouverez votre bonheur ailleurs facilement. Voilà. Je suis assez déçu de pas vous le conseiller, mais voilà, au fur et à mesure de la lecture, j'ai été dépité de plus en plus, et après, voilà, je me suis dit, j'étais en train de lire dans les années 80, je me suis dit, non, bon, c'est bon, il y a trop d'erreurs, il y a plein de manques, non, je peux plus lire, je vais finir les photos, parce que c'est très beau, et que ça me donne des étoiles dans les yeux, donc c'est cool, ça fait vivre des époques, voire revivre, donc c'est cool, mais non, non, très clairement, non. Voilà, c'est tout pour ce podcast. Eh bien, on se retrouve le mois prochain, en février, pour un nouveau podcast. Alors, consacré à quoi? Ah, je ne sais pas encore. Peut-être un peu au transfert qu'il y a eu cette saison. Donc, histoire de parler un peu de pilotes comme Lance Stroll, parler de Stoffel Vandoorne, de parler de Esteban Ocon et sa promotion chez Force India. Ouais, j'en ai pas parlé d'ailleurs, mais j'aurais pu en parler. Mais j'en avais peut-être parlé lors du podcast d'avant, je sais plus. De parler de plein de choses. De plein de choses. Et aussi peut-être de parler donc de ces nouvelles monoplaces de F1 si jamais elles sont sorties lorsque j'aurais décidé de faire le podcast. Et en dernière partie de podcast, je vous l'ai dit, ça pourrait être tout et n'importe quoi. Donc là, c'était une critique de livre, ça pourrait être une interview, ça pourrait être un retour d'un quiz avec un auditeur, ça pourrait être tout et n'importe quoi, une rubrique un peu plus légère. Toutes les rubriques dont j'avais idée pour le gros projet analysé fin que je ne fais pas finalement, eh bien, ça pourra se retrouver dans cette rubrique. High speed dating. Ah, si c'est possible, le mois prochain, high speed dating. Ah, si quand même, il faut que je continue. Cette chronique. Donc je le ferai peut-être dans ce format-là, à la fin. Ouais, c'est possible. C'est possible. C'est une idée. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, hein. J'espère que pour le retour, c'était pas trop brouillon. J'ai essayé de faire au mieux. Que ce soit au niveau de la présentation, de la préparation, on va dire, et de l'exécution. Histoire que, notamment sur Liberty Media, je me suis dit, je vais pas vous abreuver d'informations inutiles. Je vais prendre le principal. Essayer d'être le plus compréhensif possible pour que ça ait un rapport avec le rachat de la Formule 1, évidemment, et que ça soit pertinent à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à réagir, hein, sur les réseaux sociaux pour me dire ce que vous pensez de ce format, s'il vous plaît, si vous voyez des ajustements à faire également. Voilà, je suis tout ouïe. Et en attendant le prochain podcast, n'oubliez pas, tous ensemble. Tous ensemble, et oui, ça change pas par contre dans ce nouveau format. Vivons notre passion! À bientôt.